Che Guevara ou Zorro. Le Monde le découvre un jour d'août 1978 au cours d'une spectaculaire prise d'otage. Il est coiffé d'un béret à la cubaine, ses yeux brûlent d'un éclat fiévreux, son discours fascine, emporte l'enthousiasme des foules populaires. Et surtout, il est audacieux, follement audacieux. Incontestablement, celui qui se fait appeler le commandant Zéro est de la race des Pancho Villa, des Bolivar, des Guevara, ou plus récemment du sous-commandant Marcos, une sorte de spécialité latino-américaine. Car c'est au cœur de l'Amérique centrale que surgit ce nouveau révolutionnaire, au Nicaragua exactement. Dès le début de notre entretien, M. X m'a rappelé ce qu'il m'avait dit précédemment à propos de la fin de Che Guevara. Il avait alors soutenu que le révolutionnaire castriste était tombé dans un piège tendu par la CIA avec le concours essentiel du KGB. Bref, le bras armé était américain, mais le cerveau était soviétique, car Guevara gênait autant l'URSS que les États-Unis. Et le commandant Zéro? Eh bien, son parcours politique ressemble étrangement à celui du Che. Et lorsqu'il sera victime d'un attentat en 1984, on pourra indifféremment soupçonner l'Est ou l'Ouest, c'est-à-dire les marxistes sandinistes qui ont pris le pouvoir au Nicaragua, ou leurs adversaires nord-américains qui ont décidé d'étouffer dans l'œuf ce nouveau Cuba. Dans un instant, nous allons entendre M. X. Il affirme connaître l'identité des hommes qui ont tenté d'abattre le commandant Zéro. Mais avant, je voudrais vous donner quelques éléments d'information sur ce flamboyant révolutionnaire dont le véritable nom est Eden Pastora. Pastora est né en 1936 au sein d'une famille relativement aisée. Il a tout juste 5 ans lorsque son père est tué par des hommes proches du clan au pouvoir, le clan Somoza. À cette époque, la violence est depuis longtemps endémique au Nicaragua. Et la garde nationale au service des Somoza, eux-mêmes soutenus par les États-Unis qui considèrent l'Amérique centrale comme leur chasse gardée, multiplie les exactions. Le jeune Eden fait ses études chez les jésuites, puis il commence sa médecine au Mexique. C'est alors un jeune homme sportif et séduisant, si séduisant qu'il enlève la fille d'un sénateur mexicain. Il l'épouse, ce sera sa première femme, mais il y en aura 3 autres. Le commandant Zéro, cela fait aussi partie de sa légende, multipliera les succès féminins. Mais plus encore que les femmes, c'est la politique qui passionne l'étudiant. Comme la plupart des Nicaraguayens, il voue un véritable culte au général Sandino, l'homme qui a mené la lutte contre les Marines américains qui occupaient le pays dans les années 20. Sandino, assassiné par un Somoza, c'est Somoza qui, 30 ans plus tard, règne toujours en maître sur le pays et l'exploite sans vergogne. Rapidement, Eden Pastora abandonne sa médecine et rejoint les maquis sandinistes qui rêvent de chasser les Somoza, à l'image des castristes qui viennent de provoquer la chute du dictateur Batista. Le commandant Zéro est né, tantôt guerriero sous son pseudonyme, tantôt patron d'une petite pêcherie sous son vrai nom, comme Zorro. Mais pas un Zorro de cinéma. Le commandant Zéro n'hésite jamais à payer de sa personne et vit dans des conditions extrêmement périlleuses. Tellement périlleuses que 2 de ses épouses trouveront la mort dans ces combats des maquisards sandinistes contre les troupes somozistes. Puis vient ce 22 août 1978 où le commandant Zéro va se faire connaître du monde entier.
Une première question. Avez-vous déjà rencontré personnellement le commandant Zéro?
Non, je le regrette.
Pourquoi?
Mais voyez-vous, j'ai plutôt de la sympathie pour cet homme.
C'est du romantisme révolutionnaire.
Ne plaisantez pas, j'ai simplement du respect. Et même une certaine admiration pour un personnage qui a eu le courage de refuser la tentation du pouvoir et qui n'a eu de cesse de revendiquer son indépendance. Et je vais vous le prouver.
Oui, d'accord. Venons-en aux activités révolutionnaires de ce fameux commandant Zéro.
Je dois d'abord vous dire que la situation du Nicaragua dans les années 70 est catastrophique. Les Somoza ont mis le pays en coupe réglée, on a pu dire qu'ils possédaient presque 70% du pays.
70%, c'est-à-dire?
Eh bien, tout leur appartenait. Les exploitations agricoles, les établissements industriels, les compagnies aériennes et maritimes, même le sang des pauvres était leur propriété.
Le sang des pauvres, qu'est-ce que vous voulez dire?
Et Tachito Somoza, le dictateur en titre, il était depuis 30 ans, était le protecteur, le parrain d'une société qui achetait le sang des pauvres, à bas prix. Bien entendu, dans ce pays où l'humour ne perd jamais ses droits, même dans les pires situations, on avait surnommé le siège de cette société la maison de Dracula.
C'est quand même de l'humour noir.
Oui, vous avez raison. Un autre exemple. La capitale, Managua, avait été dévastée en 1972 par un terrible séisme. Oui. Tout le centre avait été détruit et des millions de dollars d'aide internationale étaient arrivés au Nicaragua. Et des dollars qui sont allés directement dans les coffres de Somoza. 6 ans plus tard, aucune reconstruction n'avait pratiquement été entreprise.
Somoza devait donc être haï par la population.
Évidemment, je ne parle pas des horreurs communes à toutes les dictatures, les tortures, les assassinats, les procès expéditifs.
Mais il y avait quand même une opposition armée. Hein.
Oui, mais la garde nationale veillait et menait la vie dure aux maquisards sandinistes qui luttaient contre ce régime corrompu depuis les années 60. Je dois aussi préciser que les États-Unis soutenaient le dictateur à bout de bras. Les États-Unis qui se moquaient bien de savoir si le pays était ou non une démocratie. L'essentiel pour eux, c'était que le Nicaragua demeure avant tout un solide bastion anticommuniste.
Ouais, comme d'habitude. Ouais. Et le commandant Zéro, alors ?
Mais il appartient à la frange la plus déterminée, la plus extrémiste aussi du front sandiniste. Et le 22 août 1978, il donne toute sa mesure.
Que se passait ce jour-là ?
Ce jour-là, des camions s'arrêtent brutalement devant le palais national, le siège de l'Assemblée.
S'il y avait quand même un parlement.
Un parlement fantoche, oui, mais pour donner le change. Des députés dociles dont certains appartenaient directement au clan Somoza.
Ouais. Donc des camions stoppent devant le bâtiment.
Oui, et quelques poignées d'hommes en uniforme vérolive de la garde nationale en descendent. Ils se dirigent vers les sentinelles. Celui qui est à leur tête, un grand gaillard, lance « Le chef arrive, écartez-vous ».
Le chef.
Somoza, le dictateur. Oui. Les sentinelles n'ont pas le temps de réfléchir. Elles laissent respectueusement le passage aux militaires qui pénètrent aussitôt dans le bâtiment.
J'imagine que ce sont de faux militaires. Hein.
Bien sûr, et leur chef, c'est le commandant Zéro. Mais s'il a réussi à abuser facilement les sentinelles de l'extérieur, à l'intérieur, ça se passe un petit peu moins bien. Des policiers s'opposent aux envahisseurs. Ils sont immédiatement abattus par des rafales de fusils automatiques et le commandant Zéro surgit dans l'hémicycle. Il pointe son fusil d'assaut sur les quelques dizaines de députés présents et il leur ordonne de se coucher à terre.
Et les députés obéissent.
Que voulez-vous qu'ils fassent d'autre ? Pendant ce temps-là, les membres du commando, dont une très jeune femme, ferment toutes les issues du bâtiment et cadenassent les portes. En quelques minutes, le commandant Zéro s'est rendu maître du Parlement. Mais la suite va être plus délicate.
Ouais. Et quel est l'objectif du révolutionnaire ?
Les objectifs, plutôt. Le commandant Zéro veut d'abord obtenir la libération de tous les prisonniers politiques. Le versement d'une énorme rançon de plusieurs millions de dollars, la diffusion d'une déclaration anti-somoziste à la radio et la garantie de pouvoir quitter librement lui et ses compagnons le Parlement.
Et si on ne lui donne pas satisfaction ?
Il fusille les députés les uns après les autres avant de se battre jusqu'au dernier homme.
Vaste programme.
Oui.
Et la réaction de Somoza ?
Classique. Il utilise d'abord la force, il envoie ses hélicoptères qui commencent à mitrailler le Parlement, mais les guérilleros ripostent aussitôt en ouvrant un feu nourri. Et l'assaut cesse sur ordre de Somoza lui-même. Le dictateur a compris que les assiégés sont déterminés. Et surtout, il a peur pour les membres de sa famille qui se trouvent à l'intérieur du bâtiment.
Donc il va négocier ?
Oui, pas lui-même, mais par l'intermédiaire de personnages neutres, des ambassadeurs étrangers, je crois me rappeler. Mais
est-ce que le commandant Zéro obtient satisfaction ?
Sur tous les points. Même si le montant de la rançon est un peu moins important que prévu. Que voulez-vous, un sou, c'est un sou, même pour un milliardaire. Tandis que libérer des prisonniers, ça ne coûte rien.
Oui.
En tout cas, en un peu moins de 48 heures, les guerrieros ont fait céder le dictateur et le spectacle est extraordinaire.
Ouais, racontez ça.
Eh bien, le commandant Zéro et ses hommes font leur apparition sur le perron du Parlement. Ils sont accompagnés par les négociateurs et tiennent en respect leurs otages les plus importants. Tout ce beau monde monte dans un autobus direction l'aéroport. Le véhicule traverse Managua et la foule hurle son enthousiasme tout au long du parcours. Le commandant Zéro salue, fait le signe de la victoire. C'est devenu un héros et pour les observateurs, il est clair que le régime de Somoza est condamné à plus ou moins long terme.
Et les prisonniers politiques dans tout ça là ?
Au même moment, ceux qui sont encore en vie, car malheureusement beaucoup sont morts en prison, s'envolent vers le Panama.
Là, on est donc en août 78, hein, c'est ça. Combien de temps Somoza va-t-il encore tenir ?
À peine un an. Mais ce sont des mois terribles, sanglants. Avant d'abandonner le pouvoir et de s'enfuir, Somoza a lâché ses chiens de garde. Et des milliers de personnes trouvent la mort dans des combats d'une extrême violence.
Et le commandant Zéro ?
Lorsque le Front Sandiniste de Libération Nationale s'empare du pouvoir, Eden Pastora, alias le commandant Zéro, devient vice-ministre de la Défense.
Un poste important, donc.
Très important. Mais vous allez le voir, le guerriero n'a pas une vocation de ministre. Le pouvoir, ça n'est pas fait pour lui.
Tachito Somoza est mort au Paraguay un an après avoir été renversé. Dans le journal Le Monde du 19 septembre 1980, Marcel Niedergang écrit « Il est mort comme un chef de bande, victime d'un règlement de compte, criblé de balles au coin d'une rue. Cette violence est à la mesure de l'énorme haine suscitée par Tachito Somoza. » Plus loin, le journaliste écrit « Chassé du pouvoir, renié par les États-Unis, son plus ferme soutien pendant son règne, exilé, traînant ses valises de dollars, il avait finalement trouvé refuge chez le général Alfredo Stroessner, maître du Paraguay depuis un quart de siècle et doyen des dictateurs d'Amérique du Sud. Il avait acheté quelques 8000 hectares de terre et s'était installé dans une villa des faubourgs d'Asunción, fortement protégée par ses gorilles personnels et par la police secrète paraguayenne. Contre toute évidence, Tachito ne s'avouait pas vaincu. À la tête d'une fortune colossale évaluée à plus d'un milliard de dollars, il aurait pu se résigner. Mais la volonté de puissance était la plus forte chez lui. On le sait, cette montagne de dollars n'a pu suffire à le protéger. Et Niedergang, un des meilleurs spécialistes de l'Amérique latine, de conclure, la fin de Tachito ressemble à son destin, couvert de sang, de crimes et de violence. Mais revenons à Eden Pastora. Monsieur X nous l'a dit, le commandant Zéro, à l'inverse de Somoza, n'avait, semble-t-il, aucun goût pour le pouvoir.
Très tôt, avant même que les sandinistes ne prennent le pouvoir, le commandant Zéro avait prévenu. Notre organisation est idéologiquement pluraliste et nationale, et nous ne serons le satellite de personne.
Et qui vise-t-il, cette déclaration ?
Mon avis, c'est clair. Ce sont les nombreux éléments marxistes qui se trouvent au front sandiniste. Des marxistes qui rêvent de faire du Nicaragua le Cuba de l'Amérique centrale. Mais les premiers temps de la révolution semblent apaiser Pastora, puisque le nouveau pouvoir regroupe communistes et modérés. On y trouve même des prêtres.
Mais ça ne va pas durer.
Non. Et en 1982, le commandant Zéro claque la porte.
Il donne une explication ?
Bien entendu. Pastora n'est pas du genre silencieux.
Braillard, grande gueule
C'est à peu près ça, oui. Et puis n'oubliez pas que depuis son coup d'éclat de 1978, le commandant Zéro est un personnage extraordinairement populaire.
Donc il ne peut pas rompre en sortant sur la pointe des pieds. Alors que dit-il ?
En gros, il a deux arguments. Un argument d'abord politique. Pour lui, les nouveaux maîtres du Nicaragua sont en train de cubaniser le pays. Pardonnez-moi cet affreux néologisme.
Le cubaniser, ça veut dire quoi exactement ?
Ça veut dire l'instauration d'un État totalitaire à l'image de celui que Fidel Castro a peu à peu instauré chez lui. Un État qui est devenu un satellite de l'URSS. Or, cela, Pastora n'en veut pas. Pour lui, le sandinisme, c'est la démocratie, le non-alignement, l'indépendance, la liberté.
Et autant de valeurs qui ne sont pas respectées par ses anciens compagnons.
Voilà. Alors, il soupçonne ses amis sandinistes de vouloir faire du Nicaragua une tête de pont soviétique en Amérique centrale.
Et son deuxième argument ?
Il est plus moral.
C'est-à-dire ?
Le commandant Zéro se rend compte que le pouvoir corrompt et que lui-même n'y échappe pas.
Ah ouais. Alors il part avant qu'il ne soit trop tard.
C'est à peu près ça, oui. Il accuse ses amis d'avoir cédé à la fascination des Mercedes.
Tiens, ça me rappelle quelque chose.
Les R25 de la première époque socialiste, oui. Ça y ressemble. Les hommes sont partout les mêmes.
Mais concrètement, que fait Pastora ?
Il démissionne de son poste de vice-ministre. Et comme son héros, Che Guevara, il quitte son pays en affirmant qu'il va combattre l'oppression où qu'elle se trouve.
Ouais, bref, il veut redevenir un authentique révolutionnaire.
Oui.
Et où va-t-il ?
On le voit un peu partout en Amérique latine.
Les armes à la main ?
Non. Pastora se cherche, il veut comprendre. Il va même voir Fidel Castro.
C'est un peu contradictoire, ça. Hein ?
Pas tant que ça. Castro est encore auréolé d'un immense prestige.
Et que dit Castro à Pastora ?
Naturellement, il lui demande de renouer avec les dirigeants du Nicaragua.
Ouais.
Mais il le prévient aussi et lui dit en substance, tu es trop honnête, la CIA finira par te tuer.
Et ensuite, après ce voyage à Cuba
Il continue de voyager. Il vit en Europe. Il se rend chez Kadhafi.
Ah, Kadhafi, encore.
Ouais.
Mais contrairement à ce qu'il a dit, si je comprends bien, il ne prend pas les armes au sein d'une quelconque guérilla.
Non, c'est d'ailleurs un des aspects négatifs du personnage. Au fond, Pastora n'est pas vraiment un homme politique. C'est plutôt un aventurier de la politique. Et ses mots vont plus vite que sa pensée.
Pas très gentil, ça.
Oui, bon, enfin. Par ailleurs, au début de cet entretien, je ne vous ai pas caché que j'avais de l'admiration pour le commandant Zéro.
Ouais. Admettons, alors s'il ne combat pas ailleurs, qu'est-ce qu'il fait exactement ?
Il va combattre à l'intérieur.
Dans son pays, le Nicaragua.
Oui.
Et donc contre ses anciens compagnons.
Exactement. Je pense que ça a été une décision dure à prendre. On ne se retourne pas aisément contre des gens aux côtés desquels on s'est battu pendant tant d'années. Et puis il y avait autre chose encore plus grave.
Mais je vous écoute.
Le gouvernement nicaraguayen devait faire face au nord du pays, à la frontière du Honduras, à une autre rébellion.
À la Contra.
Oui. Une guérilla formée essentiellement d'anciens partisans de Somoza. Et puissamment aidé naturellement par les États-Unis, où le républicain Reagan venait de succéder au démocrate Carter.
Ouais. Et j'imagine que le révolutionnaire Pastora ne voulait pas apparaître comme un allié, ne serait-ce qu'indirect, de ces gens-là.
Ça me semble évident.
Ouais. Alors, que va-t-il faire, hein ?
Pour bien prendre ses distances, il choisit, lui, d'installer sa guérilla au sud, près de la frontière du Costa Rica. Le Costa Rica, un petit état qui ferme d'abord les yeux sur les activités du commandant Zéro, mais qui sera de plus en plus embarrassé lorsque le Nicaragua l'accusera de favoriser la subversion. À noter, mais c'est un détail très intéressant, que le Costa Rica est un des seuls pays au monde à avoir choisi de ne pas disposer d'armée.
Et ça, ce détail, là, c'est un rapport avec notre histoire ?
Non, pas vraiment, mais je trouve que c'est une façon intelligente d'éviter un putsch.
Effectivement, on peut voir les choses comme ça.
Pardon pour cette digression, je reviens donc à Pastora. Inévitablement, il est approché par les Américains.
La CIA.
Oui, les ennemis de mes ennemis sont mes amis, n'est-ce pas ? Et les Américains ont compris très vite que ce type, même si son passé de révolutionnaire était inquiétant, pouvait affaiblir le régime sandiniste, et ils ont pris prudemment, c'est vrai, mais ils ont quand même pris contact avec lui.
Et ça s'est passé comment, ces contacts ?
Avec méfiance de part et d'autre.
Mais que voulait le commandant Zéro ?
Des armes, essentiellement et accessoirement de l'argent.
Et les Américains, eux, de leur côté ?
Ils voulaient bien armer la guérilla de Pastora, mais à petite dose.
Ah oui, pour quelle raison ?
Parce que le gouvernement Reagan désirait que ce soit la Contra, la guérilla ou du Nord, qui chasse les sandinistes, pas les gens de Pastora qui continuaient de refuser toute allégeance aux États-Unis.
Ouais. Il n'empêche qu'en mettant les doigts dans l'engrenage, le commandant Zéro se compromettait, non ?
Vous avez raison. Et il a compris la nature du piège qu'on lui tendait lorsque ses nouveaux amis américains l'ont convié à Washington.
Sur les décisions qui ont motivé sa rupture avec ses anciens amis sandinistes, Eden Pastora s'est souvent exprimé. En octobre 1983, voici par exemple ce qu'il déclare à l'envoyé spécial de Libération, Laurent Cagny. « Pendant les 2 ans que j'ai passé au gouvernement, à Managua, je me suis rendu compte que nous étions en train de nous corrompre. Nous vivions dans les immenses villas somosistes. Moi-même, j'occupais la villa du général Samuel Génier avec Mercedes Rouge à la porte. J'ai renoncé à tout parce que je n'avais pas fait la révolution pour en arriver là. J'ai repris la lutte à côté de notre peuple qui a été trahi. » Par ailleurs, lorsqu'il rompt avec le gouvernement sandiniste, voici ce qu'il dit en 1982 dans une conférence de presse. « La paix de notre pays repose sur un véritable non-alignement. Il n'y a ni contradiction ni ambiguïté dans le sandinisme. L'invasion du Vietnam a été aussi impérialiste que l'invasion de l'Afghanistan. Celui qui soutient une junte fasciste au Chili est aussi impérialiste que celui qui appuie un régime totalitaire en Pologne. Notre sandinisme ne peut permettre que nous soyons entraînés dans le conflit Est-Ouest, contrairement à nos intérêts nationaux. Notre révolution doit être réellement nicaraguayenne. » Mais, disait M. X lorsque je l'ai interrompu, justement, les Américains entendaient lui tendre un piège.
Qu'est-ce qui l'a décidé à aller à Washington ?
Sa pauvreté. Son extrême pauvreté. Pastora avait des hommes et il restait extrêmement populaire dans son pays. Mais il manquait de tout. J'ajoute qu'il a subi aussi la pression de son entourage et de ses quelques alliés politiques.
Donc, il se rend aux États-Unis.
Oui. Et s'il est demandeur, il est aussi fermement décidé à revendiquer son autonomie et surtout à être clairement distingué des contre-révolutionnaires de la Contra.
Mais si je vous comprends bien, il va déchanter, c'est ça ?
Et comment ? Figurez-vous qu'il est convié à une réunion avec quelques pontes de la CIA. Des officiers sud-américains sont également présents. Ce sont des spécialistes de la lutte anticommuniste. Et ils ont été engagés comme tels par la CIA. Parmi eux, des Argentins qui ne jurent que par Hitler et Mussolini.
Les réactions de Pastora ?
Ils refusent d'avoir affaire à ces fascistes. Les gars de la CIA sont fixés. Le commandant Zéro est décidément un type incontrôlable, un homme dangereux.
Donc, un type dont il faut se débarrasser ?
Naturellement, mais enfin pas trop tôt quand même. D'abord, on essaye de l'escamoter.
L'escamoter, ça, c'est intéressant. Là.
À son retour, il accepte à contre-cœur de s'arrêter au Honduras à l'invitation du général Alvarez Martinez.
Mais pourquoi à contre-cœur ?
Parce que le Honduras est une dictature et que c'est le pays qui donne asile à la Contra, c'est-à-dire aux somosistes.
Mais il y va quand même. Il avait quand même des réactions bizarres, votre commandant Zéro. Hein.
C'est vrai, c'est un peu déroutant, mais il va le payer cher. Parce qu'en fait, l'invitation, c'est une véritable séquestration qu'on lui offre.
Les Honduriens le retiennent prisonnier.
Oui. Et Alvarez Martinez, vous pensez bien, ne fait qu'obéir à ses maîtres de la CIA. Car pendant que Pastora est séquestré, les guerriers de la Contra se livrent à une sale besogne.
Mais quelle sale besogne ?
Ils investissent une ville du nord de Nicaragua, massacrent les sandinistes et avant de fuir, peignent sur les murs des slogans favorables au commandant Zéro.
Pour le compromettre ?
Bien évidemment.
Ouais. Mais justement, comment les dirigeants sandinistes réagissent-ils devant la défection de leur ancien compagnon ?
Au début, ils sont prudents. Le commandant Zéro est tout de même un héros. Mmh. Mais dès que Pastora prend les armes contre eux, il devient un contre-révolutionnaire, un valet de la CIA, un fasciste. J'en passe, et les meilleurs.
Ouais. Donc, eux aussi ont un réel intérêt à se débarrasser de Pastora.
Exactement. Et lorsque Pastora réussit à quitter le Honduras et qu'il apprend de quelle façon les hommes de la Contras se sont servis de son nom, il sait qu'il engage maintenant une lutte à mort contre ses anciens amis sandinistes. Il n'a plus de choix.
Et il se bat.
Oui, avec des moyens dérisoires, mais avec une réelle intelligence du terrain. Le commandant Zéro est réellement un spécialiste de la guérilla. Et il pose de sérieux problèmes aux dirigeants de Managua. Il faut aussi ajouter que ses premiers succès lui valent de rassembler autour de lui d'autres opposants, des démocrates, mais aussi des Indiens qui revendiquent leur autonomie. Tant et si bien que la CIA finit par accepter de lui livrer des armes.
Mais est-ce que pour autant le commandant Zéro a fait des concessions aux Américains?
Non. Et il refuse toujours avec la même obstination de faire cause commune avec la Contra. Et ce qui devait arriver, arrive.
Mais c'est-à-dire?
Le 30 mai 1984, le commandant Zéro convoque des journalistes sur la rive gauche du fleuve San Juan, c'est-à-dire du côté nicaraguayen.
Et que veut-il dire, là?
Une nouvelle fois, il veut affirmer son indépendance. Il faut dire que quelques jours plus tôt, un journal a publié un article où on l'accusait d'être le seul obstacle à l'union des forces anti-sandinistes. Un véritable avertissement. Mais il y a autre chose. Au Costa Rica, on lui a fermement conseillé de montrer à l'opinion publique mondiale qu'il se bat au Nicaragua même.
Parce que le Costa Rica en a assez d'être accusé par Managua de lui donner asile.
C'est cela. Donc le commandant Zéro convoque cette conférence de presse dans une petite baraque sur la rive nicaraguayenne du fleuve. Plusieurs journalistes occidentaux sont présents. Il y a aussi des télévisions, des photographes. Mais à peine Pastora a-t-il commencé à parler que la cabane est secouée par une énorme explosion. Plusieurs journalistes sont tués ou grièvement blessés.
Et lui, Pastora?
Il est gravement blessé, mais il vit. Un véritable miracle.
Pourquoi un miracle?
Parce que sans nul doute, le commandant Zéro devait périr au cours de cet attentat. Mais alors que la conférence de presse allait commencer, une des combattantes de Pastora a écarté du pied la mallette d'un photographe, mallette qui se trouvait tout près du guerrier.
Ouais, et la bombe se trouvait dans cette mallette?
Oui.
C'est donc un photographe qui a apporté la bombe?
Incontestablement. Un certain Peter Hansen, un curieux danois qui venait tout juste de se faire embaucher par une équipe de télévision suédoise et qui a bien sûr disparu tout de suite après l'attentat.
Et pourquoi avez-vous dit un curieux danois?
Parce qu'il savait à peine baragouiner sa langue natale.
Ah oui, effectivement, donc c'était un faux danois. Et on sait qui il était en réalité?
À peu près, oui. En fait, il s'agissait vraisemblablement d'un certain Galil, un terroriste international d'origine libyenne qui aurait travaillé quelque temps pour la police militaire secrète de Pinochet.
Un joli personnage. Mais le commanditaire?
Oh, pour moi, il n'y a aucun doute, c'est la CIA.
Et vous êtes en mesure de le prouver? Après tout, à propos du Tché, vous m'avez bien dit que c'était Moscou qui avait mis les gens de la CIA sur la piste de Guevara.
C'est vrai. Je suis sûr que la mort du commandant Zéro n'aurait fait aucune peine au KGB. Mais là, désolé, c'est bien la CIA toute seule.
D'accord, mais je répète, quelle preuve?
Grâce à nos informations, nous avons été en mesure de remonter la piste, d'autant qu'on a prétendu qu'une Française était impliquée. En fait, il s'agissait d'une journaliste à qui on avait volé son passeport. Mais je passe. Ce qu'on a pu établir, c'est que l'ordre a été certainement donné par le lieutenant-colonel Oliver North.
Oliver North, mais c'est l'homme du scandale de l'Iran Gate, ça, non?
Lui-même, oui, ouais. Mais je vous rencontrerai ça un jour, parce que tout s'entremêle. North, qui appartient au Conseil National de Sécurité, s'adresse à un certain John Hull, un fermier américain installé au Costa Rica. Un type qui possède un ranch pourvu d'une piste d'aviation. C'est quand même pratique quand on s'occupe aussi de trafic d'armes ou de drogue.
Ah ouais. Et ce John Hull fricote également à Kaseya?
Naturellement. Et c'est lui qui a recruté le faux photographe danois. Lui aussi qui lui a permis de s'enfuir puisqu'on a découvert qu'il avait disparu dans un camion appartenant à John Hull.
Mais tout ça, ce sont quand même que des supputations. Hein.
Attendez, la preuve, la vraie preuve, nous l'avons obtenue 2 ans plus tard. En 1986, deux journalistes anglo-saxons blessés lors de l'attentat contre le commandant Zéro entreprennent de faire un procès au gouvernement américain qu'ils accusent d'avoir été le vrai commanditaire. Leur dossier est principalement étayé par le témoignage d'un certain Stephen Carr.
Qui est-ce, celui-là?
Un mercenaire, un gars qui a parachuté les armes pour le compte de la Contra et qui affirme que la CIA est complètement mouillée dans l'affaire de l'attentat contre Pastora. Mais malheureusement, Stephen Carr ne pourra jamais témoigner devant un tribunal parce qu'il est liquidé avant.
Ouais, tout ça, c'est en effet assez troublant.
Oui. Bon, j'ajoute que les adversaires de Pastora n'en resteront pas là. Un an après l'attentat, un hélicoptère à bord duquel se trouve le commandant Zéro s'écrase quelque part au sud du Nicaragua. Mais Pastora, à la baraka, l'appareil est complètement détruit Mais le commandant Zéro ne s'en tire qu'avec quelques égratignures. Le guerriero a décidément la vie dure.
Il a la vie si dure. Aujourd'hui encore, Eden Pastora continue de jouer un rôle politique dans son pays, où il est revenu après la défaite électorale des sandinistes et plusieurs années d'exil au Costa Rica, où il avait repris son ancien métier de pêcheur. Sur les affirmations de M. Hicks quant à l'implication de la CIA dans l'attentat contre le commandant Zéro, je dois reconnaître que beaucoup d'auteurs ont émis la même hypothèse. Une hypothèse qui découle directement de la stratégie reaganienne mise en place en Amérique centrale, selon les théoriciens de cette politique. Il s'agissait de contrer les plans stratégiques mondiaux de Moscou. Et l'un d'eux, Sam Serkazian, écrivait par exemple « La révolution et la contre-révolution développent leur propre moralité et leur propre éthique qui justifient tous les moyens pour obtenir le succès, y compris donc les attentats. » Mais nous reviendrons sans doute un jour sur ce sujet puisque M. X a promis de me parler du scandale de l'Irangate.